Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 et sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne électorale et des municipales 2020 pour DIE, nous avons autour de la table l'équipe de Avec vous, DIE demain, qui est représentée ici au studio, à commencer par Mylène Moucheron. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Christian Rey.
Bonjour Radio DIE, bonjour les auditeurs.
Madame Agathe Laville.
Bonjour.
Et pour finir, monsieur Gilbert Trémollet. Bonjour.
Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les studios de Radio DIE.
Nous allons commencer par vous demander de vous présenter chacun, Madame Moucheron.
Donc c'est Marie-Hélène Moucheron, pas Mylène. Donc je suis adjointe sortante en fait. Donc je suis adjointe actuellement au conseil municipal. J'ai en charge la culture et le patrimoine. Je suis aussi vice-présidente à la communauté de communes, en charge de la petite enfance, enfance, jeunesse. Je suis assistante sociale au centre hospitalier de DIE. Voilà, et je suis mariée, j'ai des enfants sur le DIE et qui habitent le DIE. Voilà.
Monsieur Christian Rey.
Eh bien, moi, je suis un retraité de la fonction publique qui a choisi de faire sa carrière à DIE. Vivre et travailler au pays n'est pas le monopole de certains. Nous sommes également très attachés à notre territoire. Actuellement à la retraite, je suis très investi dans le milieu associatif. Une histoire qui remonte à fort longtemps déjà, puisque mon premier engagement dans ce domaine remonte aux années 1970 et n'a pas disparu depuis.
Et puis, Madame Agathe Laville.
Oui, bonjour. Je suis adjointe sortante en charge de la vie de quartier en lien avec les commerçants. Je suis dioise depuis une trentaine d'années, maman de 4 enfants nés à DIE et commerçante.
Et Monsieur Gilbert Trémollet.
Bonjour à tous, je suis donc Gilbert Trémollet, le maire sortant, très attaché au DIE bien sûr, parce qu'avant d'être amoureux du DIE, j'étais amoureux d'une DIEoise. Donc voilà 50 ans que je viens à peu près sur DIE. Je suis maire sortant, j'ai été dans la mandature précédente premier adjoint et également vice-président à la communauté de communes. Donc de formation, je suis très investi au niveau des questions financières et également des questions juridiques, puisque donc j'ai... certificat d'aptitude à la profession d'avocat et j'ai été cadre bancaire pendant un certain nombre d'années.
Voilà donc réunis autour de cette table, à commencer par Avec vous, DIE demain. Est-ce qu'on peut représenter un peu l'idée qui se dégage de ce nom ?
Tout à fait. L'équipe d'ensemble DIE demain est une liste qui se définit comme apolitique et plurielle. Deux termes qui peuvent paraître quelque part contradictoires, mais qui en fait sont pour nous très clairs. Une équipe apolitique, ça veut dire qu'elle regroupe des gens issus de différents milieux sociaux et professionnels qui ont parfois des visions différentes sur certains sujets, chacun est libre de ses opinions, mais qui tous sont regroupés autour d'un programme, qui a été mûrement réfléchi, un projet qui défend les intérêts de l'ensemble des DIEois. Notre liste est plurielle parce qu'elle s'appuie sur des gens qui sont tous investis, non seulement dans le milieu professionnel, comme je viens de le dire, mais qui ont également un engagement associatif très fort pour certains. Nous avons des gens actifs, confrontés aux réalités du quotidien. Nous avons également des retraités qui ont une solide expérience chacun dans leur domaine et qui ont du temps à consacrer à la collectivité. C'est mon cas par exemple, j'ai été salarié de la fonction publique territoriale, ça m'a tellement apporté au niveau personnel en termes d'épanouissement qu'arrivé maintenant à l'âge de la retraite, j'ai envie de mettre mes compétences au service de la collectivité, lui rendre un petit peu tout ce qu'elle m'a apporté. Et c'est ainsi pour l'ensemble de nos co-listiers.
Je peux peut-être apporter une précision pour dire que finalement, dans cette équipe, il y a 9 sortants qui seront dans l'exécutif de la communauté, du conseil municipal. Et on a également au total 11 sortants. Et nous avons une moyenne d'âge de 51,4 ans. Je voudrais préciser que le nombre de sortants sont les garants un petit peu de l'expérience acquise. Il y a 6 années à peu près, on avait dit que notre équipe était un petit peu jeune et qu'elle manquait d'expérience. Alors aujourd'hui, elle est toujours jeune, puisqu'on a une moyenne d'âge de 51 ans, mais nous avons beaucoup plus d'expérience. Et les personnes qui sont autour de moi ont montré leur fidélité à la ville et surtout ont montré beaucoup de pugnacité et souhaitent repartir pour compléter un petit peu les actions qui ont été entreprises.
Qu'est-ce qui vous a motivé donc tous à vous réunir pour présenter cette liste avec vous, dit demain, et quels sont les enjeux ?
Eh bien tous, nous sommes convaincus des enjeux d'aujourd'hui et des évolutions sociétales. Notre liste plurielle, elle est faite pour relever ensemble les défis environnementaux, les défis sociaux, les défis culturels et également les défis économiques, que ce soit ceux d'aujourd'hui, que ce soit ceux qui se profilent à un horizon proche.
Et bien évidemment, toute notre action sera fondée sur le pilier du développement, les trois piliers du développement durable, à savoir l'efficacité économique, l'équité sociale et la qualité environnementale.
Cette démarche, c'est en même temps une continuité de votre première mandature, Monsieur Trémollet ?
Mais je crois que c'est une continuité, mais effectivement, c'est une première expérience. Et je crois que nous avons démontré qu'au niveau de l'environnement, nous avons de leçons à recevoir de personne, puisque nous avons été particulièrement actifs. Et je crois qu'il y a très longtemps que de telles actions n'avaient pas été faites. Je voudrais citer quelques exemples au niveau de la transition énergétique, du développement durable, de l'environnement, des mobilités. Je rappelle que nous avions créé une commission qui s'appelait la commission BI, biodiversité, environnement, énergie, au sein de ce conseil municipal, qui avait d'ailleurs été présidé par, à l'époque, quelqu'un de l'opposition, mais qui était très attaché, je parle de Didier Jouve, qui était très attaché donc à l'environnement. Et on l'avait mis comme co-président avec quelqu'un de notre équipe. Et donc, ils ont fait plusieurs études, notamment au niveau des bâtiments et de tout ce qu'il y avait à faire au niveau des déplacements. Je voudrais dire que pour ceci, nous avons la rénovation du réseau d'eau de Railly, qui permet quand même 275 000 m3 par an d'économie d'eau, ce qui n'est pas rien au niveau environnemental. Je rappelle également les engagements de programmation d'isolation des bâtiments communaux, la maternelle, le cinéma, le gymnase. Je rappelle que nous allons mettre du chauffage au bois. Il y a déjà le chauffage au bois qui a été mis au niveau du cinéma. Ça sera la même chose au niveau de la maison de santé. C'est déjà fait au niveau de la station d'épuration. Et ça sera également le cas au niveau du magnifique projet de la rue Joseph Reynaud qui comprendra la crèche, 15 appartements avec des haches et également une salle de réunion. Je rappelle également que pour les circulations douces, nous avons mis en place les chaussées douces qui permettent un petit peu d'apaiser un peu la circulation. Et même si on n'avait pas eu la possibilité d'avoir suffisamment de largeur de route pour pouvoir faire des passages cyclables protégés, c'est déjà une très, très nette amélioration et je crois à la satisfaction de tout le monde. Je crois que nous avons mis également en place la tarification progressive de l'eau qui permet un petit peu à chacun de prendre conscience qu'il faut l'économiser. C'est une denrée rare, même si sur 10, nous avons la chance d'avoir une ressource importante. Je rappelle également la tarification de la cantine qui permet à chacun de pouvoir manger malgré des moyens faibles. En conclusion, je peux dire que sur le plan environnemental, c'est plutôt un bilan positif.
Une démarche environnementale nécessite des finances. Est-ce que pour vous, il y a actuellement des facilités pour opérer cette transition ?
Alors la transition environnementale, elle peut se faire à deux niveaux. Elle peut se faire effectivement en s'appuyant sur les différents systèmes d'aide qui existent actuellement au niveau de la France. Je laisserai Gilbert Trémollet exposer le sujet. Par contre, il y a un deuxième aspect qu'il faut voir, c'est la prise de conscience au quotidien. Et concernant la prise de conscience au quotidien, l'écologie, au sens large du terme, l'environnement, n'est pas le monopole de certains. C'est vraiment un sujet qui préoccupe la totalité des citoyens. Par rapport à ce constat, outre les choses qui ont été mises en place sous la mandature qui s'achève, eh bien, nous avons un certain nombre de projets qui sont très cohérents et qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Je peux en citer certains, c'est l'amélioration par exemple continuelle du réseau d'eau potable, le tri, si on peut parler ainsi, des différents types d'eau usée. Le réseau des égouts existe, mais il faut recueillir également les eaux pluviales. C'est ce qui se fait actuellement dans les deux rues de Die qui sont en cours de rénovation. Mais nous avons également en projet de créer un bassin de rétention qui permet de décanter les eaux pluviales et qui sera écologique, si on peut dire, puisqu'il sera basé sur un système naturel, filtration par des roseaux. Ce qui contribue aussi, d'ailleurs, ces roseaux, à la biodiversité. Je rappelle que d'autres actions sont déjà entreprises et seront améliorées. Il s'agit notamment de la rénovation de l'éclairage public, en supprimant les lampes actuelles qui sont très grandes consommatrices, qui produisent beaucoup de lumière, par des systèmes plus modernes qui permettent de limiter l'intensité lumineuse, donc de favoriser la biodiversité, et qui correspondent donc mieux à la sensibilité actuelle pour tous ces problèmes.
À titre d'exemple, l'éclairage du centre-ville qui a été installé l'année dernière correspond à vos attentes ?
Il correspond à nos attentes. Il est avec des ampoules basse consommation, mais je peux citer également le quartier de Chanquera, où n'importe qui peut constater que les lampadaires sont beaucoup plus bas que ceux qui existaient sur d'autres voies. Autrement dit, ils éclairent vraiment au ras du sol pour éviter de polluer l'atmosphère au niveau lumineux. Et puis, ces lampes sont des lampes de nouvelle génération. On renonce aux lampes anciennes qui pouvaient se montrer à terme polluantes. Mais nous avons beaucoup d'autres actions concrètes qui sont en cours. C'est la revégétalisation, par exemple, de l'ensemble des chemins pour éviter l'érosion des talus et favoriser là aussi la biodiversité. On a une multitude d'autres actions qui sont entreprises. Et il y en a une qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est de favoriser l'éducation des citoyens de demain, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, en fait, les sensibiliser très fortement au niveau de toutes ces problématiques. Et c'est pour ça que nous avons engagé déjà et que nous souhaitons développer toutes les actions de médiation dans ce domaine.
Vous voulez intervenir, monsieur?
Oui, je voulais intervenir parce que votre question était à double sens, à savoir qu'il y avait la partie que vient d'évoquer Christian maintenant, mais il y a également la partie budgétaire. Vous disiez que, bon, il fallait les moyens pour travailler. Et les moyens, bon, ça me permet, si vous voulez, de dévier un petit peu sur la situation financière et budgétaire et la façon dont nous avons géré pendant ces 6 ans. Et je crois d'ailleurs que nous avons, de la part de nos deux équipes concurrentes, on va les appeler comme ça, un satisfecit, puisque l'une et l'autre disent que nous allons maintenant avoir les moyens. Et je dois dire qu'effectivement, quand nous sommes arrivés en 2008, ce n'est pas du tout ce que nous avions trouvé. Et les moyens existent maintenant pour plusieurs raisons. À savoir que nous avons géré cette mairie comme une entreprise. Ce n'est pas un gros mot de dire que nous l'avons gérée comme une entreprise. C'est-à-dire que nous avons particulièrement porté attention au fonctionnement, parce que c'est à partir du fonctionnement qu'on dégage des capacités d'autofinancement. Et ces capacités d'autofinancement, depuis 6 ans, sont chaque année supérieures à 1 million d'euros. Qu'est-ce que nous avons fait pour ça? Nous avons d'abord pris conscience de ce qui se passait, parce que depuis 2013, il faut savoir, il faut le souligner surtout, c'est que nous avons des baisses de dotation de l'État pour 1,5 million d'euros, ce qui n'est pas rien. Et je rappelle également qu'en 2017, nous avons perdu la taxe additionnelle qui va maintenant au département, qui est de 180 000 euros. Malgré ce, nous sortons chaque année depuis 6 ans une capacité d'autofinancement à environ 1 million d'euros. Et nous avons une trésorerie qui est très satisfaisante. Et donc, ce qui nous permettra, puisque nous avons voté le budget 2020 il y a maintenant 3 semaines, ce qui nous permettra, compte tenu de ceci, de démarrer tout de suite, d'être dans l'action immédiatement, avec des moyens, et des moyens qui ont été difficiles à obtenir, parce qu'il faut gérer d'une façon très convenable. Et je voudrais dire que nous en faisons également profiter les citoyens, puisque si l'on compare les taux d'imposition sur le plan national et sur le plan départemental, nous sommes chaque fois, pour des villes de strates comme celle de Die, nous sommes chaque fois très nettement en dessous de l'imposition. Et je pense que ça fait partie, moi j'appelle ça de la gestion financière durable, parce que si nos concitoyens payent moins d'impôts, ils vont reconsommer sur le territoire, ils vont avoir des moyens pour faire fonctionner nos commerces locaux, et je pense qu'ils en sont parfaitement conscients.
Une question me vient à l'esprit par rapport à ces baisses de dotation de l'État. Il a fallu quand même sacrifier certaines activités ou certains secteurs de la municipalité pour justement arriver sur des comptes justes.
Donc il a fallu bien entendu faire attention. Je viens de vous le dire d'ailleurs, nous avons été très attentifs au budget de fonctionnement. Et c'est sur le budget de fonctionnement que nous pouvons agir, parce que comme vous le savez, il est hors de question d'emprunter pour le fonctionnement, parce que les emprunts se font pour des investissements, mais pas pour du fonctionnement. Donc, et ces 1,5 million ont été progressifs. Chaque année, c'était à peu près 600 à 800 000 euros. Mais donc, nous en avons tenu compte et nous avons pris les dispositions qui s'imposaient de telle façon qu'on puisse continuer à agir correctement et pouvoir investir.
Vous mettez aussi en avant l'animation de la ville et les commerces de proximité. Pour ça, qu'est-ce qui va être développé sous votre programme ?
Voilà. J'interviens. Le commerce en centre-ville souffre, et ça c'est un vrai, vrai constat, et ce n'est pas qu'à dire pour plusieurs raisons. Nouveau mode de consommation, l'Internet, la politique des prix bas en permanence, et le pouvoir d'achat. Donc qu'avons-nous fait et que peut-on faire ? Tout d'abord, on tient à soutenir nos commerçants existants. On poursuit le dialogue de manière récurrente. Tous les mois, je les rencontre, réunions, etc. Et nous les soutenons. Nous sommes plusieurs acteurs, la CCD, la mairie, les commerçants et les clients aussi, également. La compétence économie n'est pas notre compétence, c'est la compétence de la communauté de communes. Cependant, nous voulons engager plusieurs actions supplémentaires. C'est un ensemble dit. Ce n'est pas uniquement le centre-ville. Le centre-ville ne fonctionne pas uniquement qu'avec le centre-ville, mais bien avec l'extérieur. Le développement de l'extérieur côté ouest, avec la zone artisanale, sachant que Léa Nature va s'y installer et créer une cinquantaine d'emplois. Le côté est, avec la maison de santé et Chanqueras, 24 villas ont déjà été créées, dont 17 vendues. Ainsi que 24 appartements, Gilbert, tu me reprends si je me trompe, 24 appartements en juin. Ouais. Voilà. Le développement, effectivement, du centre-ville aussi, avec la réhabilitation de Joseph Reynaud, agrandissement de la crèche et 15 nouveaux appartements. La salle communale qui sera de 80 places. Je vais aussi parler de la rue Buffardel avec le nouveau pôle culturel et associatif, mais je laisserai Marie-Hélène en parler un peu plus tout à l'heure.
D'accord.
Et voilà, et puis la réhabilitation de la place du Mazel. Et pour faire le lien entre l'extérieur et le centre-ville, nous lançons des réfections de rue comme l'Armellerie, Buffardel, Émile Laurent, l'avenue du Texas très prochainement. Et tout ça fait un vrai lien entre l'extérieur et le centre-ville. J'aimerais parler aussi des déplacements, les déplacements doux et la navette pour laquelle nous avons lancé une expérimentation en octobre. Les retours à mi-parcours ont été très, très positifs. Nous associons les usagers, les commerçants et notre volonté, c'est vraiment de pérenniser ce service, de le développer, d'en faire un vrai projet à terme qui pourrait desservir la maison de santé et le futur hôpital. Ça permet aussi de désengorger les places de parking en centre-ville. Donc on redynamise le centre-ville et nous relancerons également une opération façade par l'information aussi des propriétaires sur les aides à la rénovation du bâti ancien.
Vous parlez justement des trois axes principaux du centre-ville, hein, la rue Buffardel, Laurent et de l'Armellerie. Sur un des programmes, je lisais chaussée plutôt que rue. Est-ce que ça serait de nouveau une mise à disposition pour les véhicules à moteur ?
Actuellement, les voitures circulent déjà dans ces axes qui sont dans une, on les appelle le lieu de rencontre. Hein. Les voitures s'y croisent avec les piétons, avec les cyclistes, avec une priorité pour ces deux derniers. Hein. Les voitures doivent se mettre un petit peu en retrait par rapport aux usagers piétons et cyclistes. On ne peut pas supprimer les voitures du jour au lendemain. On est dans une société qui utilise ce moyen, ça a été développé pendant les décennies précédentes. Par contre, là où on peut agir, c'est de refaire des chaussées qui soient dûment aménagées. Ça a été le cas déjà avec l'avenue de la gare. Et à ce propos-là, nous souhaitons que les choses se fassent en toute civilité. On ne souhaite pas opposer les gens les uns contre les autres. Mais pour en revenir aux trois rues que vous évoquez, il faut faire un constat, c'est qu'elles sont usées par l'usure normale d'un lieu qui est utilisé. Par contre, les réseaux concernant ces rues ont été refaits il y a peu d'années, hein, une trentaine d'années à peu près. Donc les travaux dureront moins longtemps et ils seront réalisés de façon à ne pas progressivement, de façon à ne pas pénaliser justement les activités commerciales ou autres. Une ville, il faut qu'elle soit vivable. Pour qu'elle soit vivable, eh bien, il faut que chacun y mette du sien et qu'on arrive à concerter le tout. Les actions qui ont été évoquées par Agathe, qui ont été évoquées par Gilbert, sur ce qui a été fait en termes de chaussées doux, aménagement des places, etc., vont toutes dans ce même sens. On ne veut pas dresser les automobilistes contre les autres usagers et inversement. On veut que chacun trouve sa place dans l'agglomération, trouve sa place dandy. C'est ça qui est important, c'est de retrouver du vivre ensemble. C'est ce qui fait la richesse de notre ville.
Donc, vous entendre aussi, vous parler du centre-ville, mais aussi, Digne n'est pas que ce centre-ville. Il y a aussi cette zone d'activité, zone commerciale. Est-ce que vous voulez, déplacer l'activité commerciale, justement en périphérie ? Et comment ça se passerait ?
Pour l'instant, donc, l'activité commerciale en périphérie existe. Ce que je voudrais confirmer aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles activités commerciales sur Chanqueras. Ça, c'est bien net, parce qu'on ne souhaite pas dépeupler les commerces en centre-ville. Bien au contraire, je pense que le développement des logements sur Chanqueras permettra justement, puisque nous avons un projet très rapide de rénover l'avenue du Texas et de faire en sorte que par la rue de la Gélibaudière, l'avenue du Texas, les gens qui sont sur Shankara viennent très facilement au centre-ville. En gros, c'est 5 minutes en vélo, 10 minutes à pied. Et je crois que nous voulons protéger le centre-ville. Il n'y aura, et je prends l'engagement, il n'y aura pas de commerce nouveau sur la zone de Shankara, puisque c'est ce dont on entend parler d'une manière récurrente.
Et pour la zone d'activité, il y a encore des endroits pour des installations ?
Alors, sur la zone d'activité, c'est une zone d'activité artisanale. Donc, les gens qui s'installent là sont inscrits au registre des métiers. Et donc, on en restera là. Il n'y aura pas de commerce alimentaire, si c'est votre question, ou de commerce vestimentaire. On en restera à une zone artisanale. Et donc, c'est une chance de l'avoir parce qu'effectivement, il y a eu des transferts d'entreprises qui étaient sur le centre-ville ou à la périphérie, mais qui se trouvent maintenant dans des conditions nettement meilleures et ce qui leur permet de travailler d'une manière fonctionnelle. Je pense notamment à la Syrie, qui était dans un endroit qui était un petit peu compliqué et qui travaille maintenant d'une manière beaucoup plus efficace. Et en travaillant d'une manière beaucoup plus efficace, il se peut aussi qu'un développement économique se fasse et en contrepartie, et pas en contrepartie, en conséquence, un développement des emplois également.
Et on peut même rebondir sur le sujet que vient d'évoquer Gilbert pour préciser que cette zone d'activité a été réalisée en partenariat avec la communauté de communes du Diwa. Il y a beaucoup de projets qui ont été conduits avec ce partenariat. Le fait de construire des projets ensemble, d'en discuter, d'avoir parfois des idées un petit peu opposées, ça fait partie du débat démocratique. L'essentiel, c'est d'arriver à travailler ensemble. La communauté de communes, j'en profite pour le dire, n'est pas vécue par nous comme un concurrent ou autre. La communauté de communes, c'est nous. Toutes les communes du Diwa en font partie. Donc la communauté de communes, c'est nous. Et j'en profite pour dire que, outre les deux élus sortants qui étaient vice-présidents de la communauté de communes, on a dans notre équipe un certain nombre de colistiers qui sont déjà engagés au niveau de la communauté de communes, que ce soit en tant que représentant de la société civile au sein du comité leader, par exemple, ou bien d'organismes qui dépendent de cet établissement. Je pense notamment à l'établissement public de coopération qu'est l'Office de tourisme du pays d'Iwa.
Puisqu'on est sur la communauté de communes, j'en profite également, puisque j'ai pu lire ou entendre à cette radio d'ailleurs, par certains de nos concurrents, qu'il y avait un problème entre la ville de Die et la communauté de communes. Absolument pas. Nous avons deux vice-présidents qui ont bien vécu leur mandat avec la communauté de communes. Et je voudrais dire que nous avons fait des projets vraiment emblématiques. Je veux citer la fibre actuellement, qui a été fait en partenariat avec la communauté de communes. Je voudrais citer également le contrat local de santé, qui est géré par la communauté de communes, mais dans lequel nous avons une action importante et nous la soutenons vraiment. Je voudrais citer également le contrat ZRR avec l'agence de l'eau qui a été co-signé par toutes les villes, tous les membres de la communauté de communes et la ville de Die en particulier. Même si nous avions, nous, notre indépendance au niveau de la gestion de l'eau, je pense qu'il était normal que nous participions à cette activité-là. Et je voudrais souligner particulièrement, on l'a déjà fait, cette magnifique réalisation qui est en train de sortir, à savoir la rue Joseph Reynaud, agrandissement de la crèche, où nous avons justement fourni les locaux sous la salle polyvalente de telle façon que cette réalisation puisse se faire. Et c'est un petit peu pour ceci qu'actuellement nous avons effectivement un manque de salles à offrir aux associations ou aux réunions potentielles qui pourraient avoir lieu sur DIE. Mais ceci n'est que momentané et je pense que ça sera à la satisfaction de tout le monde.
Vous prévoyez quelque chose dans ce domaine, je suppose ?
Oui,
Oui, madame
Oui, Moucheron. En fait, nous prévoyons en fait de créer un pôle culturel et associatif à côté du musée actuel. Donc, c'est dans l'ancienne maison du CMP. C'est vrai que notre ville est particulièrement riche en équipements culturels, au niveau culturel et patrimonial. Notre ville est exceptionnellement riche. Ça a été d'ailleurs dit dans l'audit qui s'est passé à la communauté de communes par rapport au PLUI. Il y a eu un diagnostic qui a été créé et le bureau d'études estime que la ville de Die est vraiment, pour une ville de presque 5000 habitants, dotée d'équipements structurants très importants. Donc nous avons des équipements structurants, nous avons beaucoup d'associations, nous avons des locaux qui vieillissants. Et donc ce pôle culturel et associatif pourra accueillir et loger dignement les associations dans des bureaux mutualisés, pourra accueillir également l'école de musique. L'école de musique qui est actuellement du côté du quartier Pluviane, donc école de musique et d'art plastique, puisqu'il y aurait une possibilité de faire des locaux où l'acoustique serait rendue à son maximum et où les professeurs de l'école de musique pourront vraiment rendre un enseignement de qualité. Voilà, avec cet équipement structurant de plus, il y aura également une possibilité de permettre une accessibilité au musée, puisqu'il y a déjà un ascenseur dans cet espace, et donc qui permettra en même temps de rendre le musée plus accessible à tous, puisque depuis le début de notre mandat, et si nous sommes encore là après, nous continuerons de toute façon à promouvoir l'éducation populaire et l'accès à la culture pour tous. Et donc dans cette idée, dans cette optique, on aménagera aussi les locaux pour que ça puisse être accessible pour tous, en plus des tarifs déjà adaptés que nous faisons, quoi.
Pour compléter ce que vient de dire Marilène, je voudrais souligner quand même que c'est pendant ce mandat que nous avons fait l'acquisition de cette maison Reynaud, dans laquelle nous ferons installer le pôle culturel et associatif. Vous savez qu'à l'origine, nous avions en tête de faire la maison médicale en centre-ville, mais ça n'a pas été possible parce que nous n'avons pas retrouvé les professions libérales pushing sur cette affaire-là et qui ont préféré se trouver sur l'extérieur. Donc nous sommes propriétaires et nous allons donc pouvoir très rapidement mettre en route cette affaire-là et pour le bien de toutes les associations et surtout retrouver des salles, comme vient de le dire Marilène.
Voilà, à suivre. Et je reviens un peu sur le centre-ville, toujours. Hein, j'y habite, donc voilà. Il y a beaucoup de commerces fermés, il y a beaucoup de logements inoccupés, voire même des logements vétustes, parfois. Quelle est la politique municipale vis-à-vis de cette problématique et l'investissement qu'elle compte y mettre ?
Alors, votre question est intéressante parce qu'on doit l'orienter de deux façons différentes en ce qui concerne la réponse. Il faut que les citoyens aient bien en tête qu'il y a certaines compétences qui ne relèvent plus de la commune, mais qui relèvent de l'intercommunalité. C'est le cas de tout ce qui concerne l'économie, mais c'est également le cas pour le logement. Donc la commune peut travailler dans ce sens, en partenariat avec la communauté des communes, de façon directe pour certains points, de façon indirecte pour d'autres. Il y a des opérations qui peuvent être favorisées par la commune, mais il faut surtout encourager les propriétaires particuliers à faire un certain nombre de travaux pour mettre en conformité leur logement aux normes actuelles. Ça, c'est une information qui est faite à la fois par la Comcom et qui sera faite également de façon plus prégnante par la mairie. Je rappelle également que, contrairement à ce qui a été dit, la mairie de Die dispose d'un architecte conseil qui est à même de conseiller justement les propriétaires pour leurs travaux d'aménagement. Et le deuxième point, c'est que la ville de Die peut bien sûr intervenir pour, en partenariat avec d'autres financeurs publics, régions, départements ou autres, programmer un certain nombre d'opérations, c'est notamment les opérations façades. Mais une opération façade, on en est bien conscient, ne suffit pas. Il ne s'agit pas de cacher la misère, entre guillemets, qui peut être derrière les façades. Il faut que les opérations soient conjointes, qu'il y ait de la réhabilitation de confort, on va dire, des appartements, de la réhabilitation énergétique, hein, pour être tout à fait conforme à nos engagements concernant l'environnement. Et puis, ça va droit dans ce qu'on veut faire aussi, parce que réhabiliter des logements dans le centre-ville, ça veut dire aussi être capable de repeupler d'une certaine façon le centre-ville. Si on est capable de fournir des appartements de qualité dans le centre, ça veut dire qu'on ne grignote pas sur les terres agricoles, un sujet qui est également récurrent dans cette campagne. On souhaite redynamiser tout ça parce que ça va permettre aussi de développer les activités économiques du centre, à savoir le petit commerce. C'est un tout et cette vision globale, nous l'avons et elle est très présentée de façon très très claire dans notre programme. On n'a pas une vision sur tel ou tel point, on a une vision cohérente d'un ensemble avec une multitude d'actions qui peuvent être entreprises pour justement se compléter les unes les autres et parvenir à l'objectif que nous nous sommes définis et qu'on a précisé au départ et qui vont dans le sens d'un développement attractif et durable, prenant en compte tous les problèmes sociétaux et environnementaux que nous retrouvons actuellement.
Voilà, l'attractivité, c'est celle aussi de la santé et de l'accès aux soins, qui a été très mise à mal ces dernières années concernant l'hôpital et la disparition de la maternité. Qu'en est-il par rapport à cette construction d'hôpital qui a été envisagée donc à proximité de la zone d'activité ?
Merci de me poser la question. C'est une question primordiale et très importante et qui fait l'objet depuis de nombreuses années, pour ne pas dire de décennies, de sujets récurrents. Je me rends compte qu'aujourd'hui, et j'ai été très étonné d'entendre de la voix d'une concurrente, de nous dire que est-ce qu'il n'y aurait pas eu un marchandage ou un échange entre la fermeture de la maternité et la fermeture de la chirurgie pour avoir un hôpital neuf. C'est vraiment tenir peu cas des efforts qui ont été faits depuis des années par les élus communaux, les élus de la communauté de communes, les élus départementaux, la présidente du conseil départemental, tous les parlementaires. Je rappelle que ces dernières années, nous sommes allés 3 fois dans le bureau de la ministre. Nous avons rencontré 2 fois Mme Touraine, 1 fois Mme Buzyn. Ceci, vous le savez, a été une décision d'État. Donc nous avions une petite maternité, très confortable, très appréciée. Cependant, la décision ne nous appartenait pas et nous avons eu la défendre bec et ongle. À un moment, cette situation ne nous appartenait pas. Ce que je voudrais dire, c'est que de 1995 à 2008, il y avait la gestion communale par un concurrent actuel. Peut-être qu'à ce moment-là, pendant cette période, on a peut-être eu un manque de vision, où on n'a pas prévenu, on se laissait un petit peu aller, tout allait bien, on laissait couler. Mais je crois que peut-être à ce moment-là, il aurait peut-être été sans doute plus facile de prendre des décisions qui auraient peut-être permis de maintenir la chirurgie et pourquoi pas la maternité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un dossier que nous avons pris à bras-le-corps et on n'a rien bradé, bien au contraire. L'État va mettre 12 à 14 millions sur la table pour faire ce nouvel hôpital. C'est une belle manne. Il met également 3 millions sur la table pour faire un EHPAD. Et ces 3 millions seront complétés et abondés par 3 millions également du département. Et j'en profite pour remercier l'effort qui est fait par le département. Alors effectivement, on peut nous dire que c'est un petit peu compliqué. Ça l'est, c'est vrai. Mais à un moment, il faut prendre des décisions. Et il faut assumer les décisions. Il n'y a pas eu de marchandage. Par contre, ce qu'il y a eu, et tout de suite dans l'immédiat, c'est la mise à disposition d'un scanner. Je rappelle que sur 2019, on a eu 2100 consultations au niveau du scanner. Sur le plan de l'impact carbone, je trouve que c'est formidable. Parce qu'auparavant, ces 2100 consultations, elles allaient sur Valence, elles allaient sur Montélimar. Donc aujourd'hui, elles se font sur place. Et je pense que c'est à la grande satisfaction des médecins généralistes qui sont sur place d'avoir cet outil ici. Parce qu'immédiatement, ils ont des réponses. Je rappelle également qu'on va faire 800 000 euros, la question a été posée aussi, au grand étonnement de certains, 800 000 euros de travaux dans les urgences. Les urgences, mais parce que cet hôpital, il sera opérationnel, si on est raisonnable, aux alentours de 2022-2023. Donc en attendant, il est normal que nous ayons des urgences qui soient en excellent état d'accueil, de compétences. On a également la même candidate, qui nous dit que ça serait bien si sur 10, on avait 4 médecins urgentistes. Ben, je rappelle qu'il faut peut-être qu'elle se tienne un petit peu au courant de ce qui se passe. On en a 4,8. 4,8 sur 5,3 postes. Je crois que, et c'est reconnu dans le milieu médical, nous sommes en France, sans doute un des postes urgentistes les mieux dotés de France. Je rappelle, pour comparer, il y a 35 postes ouverts sur l'hôpital de Valence. Ils sont 23. Faites la règle de 3 et vous verrez qu'un petit peu, nous sommes très, très bien servis. Nous avons également, nous le suivons également, la mise en place d'un hélicoptère beaucoup plus performant qui est opérationnel de jour comme de nuit, partout temps. Et bien sûr, il peut y avoir, et il y a eu des dérapages, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut essayer effectivement de faire qu'on améliore la situation au mieux possible, mais c'est encore une belle amélioration. Il y a également... Et ça, je le souligne, parce que nous avons pris à bras-le-corps ce dossier, la création d'une maison médicale. Cette maison médicale pluridisciplinaire va se faire sur le quartier Sankaras, c'est vrai, mais qui est à 5 minutes à pied du centre-ville. Et puis dans un secteur où on va pouvoir se garer, où on va pouvoir y aller très, très facilement. Et avantage de cette maison médicale, c'est que nous faisons 2 cabinets supplémentaires. 2 cabinets supplémentaires qui vont nous permettre d'accueillir de jeunes médecins. Et vous savez que maintenant, les jeunes médecins, ils ne veulent plus travailler en cabinet tout seul. Ils veulent travailler sur un cabinet d'ensemble. Ils seront plusieurs là-dessus. En plus, nous avons pris une décision importante d'attractivité, à savoir que nous avons fixé le taux de location, le montant de la location, en gros, à 50 000 euros pour l'ensemble des occupants de cette maison médicale. Et il reste 25% à occuper pour pouvoir faire venir de jeunes médecins. Ce qui va se passer quand les jeunes médecins vont arriver, nous n'allons pas augmenter le loyer, mais par contre, ça va diminuer le loyer pour l'ensemble des professions libérales. Et je crois que, comme dit la Vox Populi, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais là, non seulement on fait des lieux qui sont très accueillants, mais on fait des lieux qui, financièrement, vont être attirants pour les jeunes médecins qui vont vouloir s'installer.
Vous disiez tout à l'heure qu'un médecin n'avait pas forcément envie d'être tout seul dans son cabinet. Et j'ai cru comprendre que beaucoup de médecins du centre-ville iraient certainement au cabinet médical de Jean Queyras.
Tout à fait, il y a quelques médecins du centre-ville. Et d'ailleurs, je voudrais souligner qu'il y a deux jeunes médecins qui nous ont particulièrement aidés et qui sont venus intervenir en conseil municipal pour montrer un petit peu les avantages, surtout, d'avoir une maison médicale neuve. Et je pense que c'était un bon choix et c'était surtout le choix qu'ils nous réclamaient.
Et puis, vous vouliez intervenir, Madame Moucheron.
Oui, je voulais juste, en complément de ce que Gilbert a dit, donc puisque le site de l'hôpital serait au niveau de la ZAC, on aura un site en centre-ville, donc sur le site de l'actuel hôpital, un site, un énorme espace à réfléchir sur son devenir. Je pense que ce serait important, avec l'ensemble des DIWA, de voir un peu ce que ce site peut devenir. Et c'est vrai que la situation de ce site sera vraiment bénéfique. En tout cas, je pense qu'il ne faudra pas louper le coche parce que ce sera vraiment bénéfique pour la redynamisation, en tout cas, de notre centre-ville. Donc, nous y réfléchirons avec l'ensemble des DIWA.
Pour compléter sur les engagements de l'État, puisqu'on a un engagement écrit de l'État, je rappelle que deux fois par an, nous avons une réunion en préfecture sous la présidence de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président de l'ARS, de telle façon qu'on voit un petit peu l'avancement de ces projets. Je vous rappelle que le compromis a été signé et je pense que très prochainement, l'achat du terrain va avoir lieu et je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour les DIWA.
Il y a un petit complément que je voudrais apporter par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur l'hôpital, en précisant que des études ont été faites, bien sûr, par les autorités compétentes pour connaître le coût de rénovation de l'hôpital actuel et le mettre en rapport avec le coût de construction d'un hôpital neuf. Eh bien, construire un hôpital neuf revient moins cher que de réhabiliter les locaux existants. C'est un point qui est essentiel. D'autant plus que la construction d'un bâtiment neuf permet d'avoir des locaux qui sont parfaitement adaptés aux évolutions de la médecine d'aujourd'hui.
Et je voudrais souligner qu'un hôpital neuf, c'est aussi du confort et pour les patients, mais également pour le personnel. Je voudrais souligner, en profiter pour souligner un petit peu l'efficacité, la très 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 bon engagement des personnels médicaux, bien entendu, mais également au niveau des aides-soignantes et des infirmiers. À un moment où finalement, on va avoir besoin d'eux en ce moment, je pense qu'il faut souligner leur engagement, leur bonne volonté et surtout leur utilité très importante sur le territoire.
On aborde le social, donc une création de centre intercommunal d'action sociale, ce qui n'existe pas actuellement.
Il est vrai que pour le moment, nous avons un centre communal d'action sociale à la mairie de Die. Il est important que cette réflexion au niveau d'un centre intercommunal d'action sociale se mette en place. On a déjà, durant le mandat précédent, commencer à y réfléchir avec donc la communauté de communes, avec les commissions intercommunales. Beaucoup de maires de petites communes aux alentours de Die et bon, dans l'ensemble des communes de la communauté de communes sont un peu démunis, sont vraiment démunis, même parfois devant des situations compliquées, de plus en plus complexes. Et donc c'est vrai qu'un centre intercommunal d'action sociale serait vraiment un plus pour notre territoire, pour que les gens certaines personnes ne restent pas sur les côtés de la route et que tout le monde puisse avancer ensemble sur notre territoire. Donc c'est sûrement un sujet, c'est certainement un sujet qui va être abordé et la mairie de Die va travailler avec l'intercommunalité pour arriver à cette structure en tout cas.
Vous n'avez pas encore déterminé le lieu d'installation de ce centre ?
Non, on a juste fait un petit diagnostic de ce que les communes actuellement avaient comme besoin, un petit recensement des besoins, mais on a eu une réunion, donc je vais être franc, je ne vais pas dire qu'on a vraiment... Mais bon, déjà, on a vu que c'était vraiment utile d'avancer dans ce sens. Et puis, on va voir quelle forme ça prend, parce qu'un centre intercommunal d'action sociale, ça peut prendre différentes formes. Ce n'est pas nécessairement un lieu fixe où des salariés y sont. Ça peut prendre différentes formes. Donc là, on va essayer de trouver la forme la plus adéquate qui répond au mieux, au plus près des besoins de notre territoire.
On revient aussi par rapport au logement adapté pour les personnes âgées. On avait parlé un peu du logement, on peut parler très vite de ça ?
On peut continuer effectivement sur le social. Concernant les logements, le maire prendra la parole parce qu'il a monté quand même plusieurs dossiers relatifs à cette problématique. Mais au niveau du social, nous avons également d'autres actions qui sont prévues lorsque nous serons aux affaires dès la semaine prochaine. C'est notamment optimiser les subventions aux associations à caractère social avec certains axes qui nous paraissent importants à développer. Je pense notamment à toutes les initiatives qui vont dans le sens de la prévention auprès des jeunes, que ce soit des addictions, de l'information sur les problématiques à caractère sexuel ou autre. Tout ça, c'est quelque chose qui est à développer. Nous souhaitons également développer les différents tarifs communaux qui ont été votés ces dernières années. Il existe des tarifs différenciés au niveau, par exemple, et je ne cite que quelques exemples, de l'école de musique et des arts plastiques. Mais il y a des efforts très importants qui ont été faits également au niveau de la cantine scolaire. Le maire le rappelait tout à l'heure. Mais les repas à 1 euro avec une restauration de qualité des produits bio issus des circuits courts du territoire, ça c'est quelque chose qui existe déjà de façon très concrète et que nous voulons également développer. Le logement adapté, on est conscient des nécessités, c'est pourquoi un certain nombre de projets sont déjà en cours de réalisation, mais je laisse Gilbert vous en parler.
Très bien. Je voulais, vous faites bien de poser la question du logement social, je crois que depuis des années, il ne s'était jamais fait autant de logements sociaux sur 10. Je rappelle qu'il y en a 24 sur Chanquera qui sont construits, qui sont habités maintenant, qui sont neufs, très confortables. Il y a un projet, il n'y a pas un projet. DH a acheté un terrain où ils vont faire 9 appartements supplémentaires. Je rappelle que sur le plan social, et vraiment très social, nous avons construit la maison intergénérationnelle avec 24 studios qui sont pour des gens qui sont en difficulté, également des stagiaires. Et je crois que ça, il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, d'inquiétude quand on a construit cette maison. Et maintenant, je crois que ça se passe, même pour le voisinage, à la satisfaction de tous. Je voudrais également dire qu'il y aura également 15 appartements sociaux dans ce projet de la maison Reynaud, puisque donc ils seront habitables également par des gens à mobilité réduite, puisqu'il y aura donc un ascenseur et il y aura un chauffage au bois également, donc ça sera hyper confortable. Et sur le plan social, je voudrais dire que, contrairement à ce qui a pu être entendu, nous n'avons pas diminué les subventions aux associations. Ça fait partie du cadre de vie, puisque nous avons une richesse, Marie-Hélène l'a souligné tout à l'heure, une richesse associative importante. Et je crois que c'est 140 000 euros chaque année qui sont distribués au niveau des associations. Et effectivement, il peut y avoir d'une année sur l'autre des répartitions différentes avec des analyses qui sont prises en compte. Mais il n'y a pas de diminution des subventions aux associations, comme je voudrais souligner également, puisque tout le monde fait de grands projets, mais personne ne nous parle de la façon dont ils vont les financer. C'est quand même le nerf de la guerre. Et moi, je suis déjà en relation, si vous voulez bien, avec le préfet et la préfecture, puisqu'il y a un programme Petite Ville de Demain qui va être mis en place. J'ai déjà envoyé, il y a plus de 3 mois, tout un programme pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Parce que quand on parle de refaire l'ensemble des rues du triangle d'or, on va dire, de Dix, Armellerie, Émile Laurent, Buffardel, ça, c'est une somme d'argent importante. On a également, donc, on aura des dossiers pour la requalification urbaine, également pour les transports. Le logement, l'habitat rentreront dans ce programme Petite Ville de Demain. Nous avons également parlé de rénover les équipements publics structurants. Créer le pôle social fera partie de cette opération-là. Et je voudrais souligner également que j'ai émis le dossier de la rénovation de la salle polyvalente. Alors après, là, nous avons déjà un plan qui a été proposé, mais donc il devra être remis à jour. Mais en tout cas, nous ne perdons pas de vue qu'effectivement, cette salle polyvalente est à remettre à jour, un peu, si on peut dire comme ça. Et nous n'oublions pas dans ce programme Petite Ville de Demain, les remparts, la mosaïque des quatre fleuves, le musée de Dix et du Diois, parce que Christian le dirait beaucoup mieux que moi. Le patrimoine, c'est un élément attractif important au niveau du Diois et donc il n'est pas à laisser de côté.
L'éducation, le sport et la jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse, qu'est-ce qui lui est proposé aujourd'hui pour l'attractivité? Et puis, ce sont aussi des personnes qui seront l'avenir de Dix.
Exactement. Les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Et en cette qualité, on peut constater que les jeunes ont une vision très pertinente sur les problèmes environnementaux, mais également sur les problèmes sociétaux. Ils sont ouverts vers des partenariats multiples, ils sont ouverts à la solidarité. C'est donc des choses que nous voulons prendre en compte et que nous allons mettre en action dès notre prise de fonction, à savoir que nous nous sommes engagés, nous l'avons écrit noir sur blanc sur notre programme, à mettre en place une instance consultative des jeunes qui représente l'avenir de notre ville et qui seront amenés à apporter leurs remarques, leurs avis, leurs propositions sur l'ensemble des projets structurants qui concernent l'avenir de notre commune. Mais au-delà de cette participation citoyenne que nous souhaitons mettre en place avec les jeunes, nous avons prévu, bien sûr, un certain nombre d'actions très concrètes. Ça va, bien sûr, du maintien du soutien actuel aux écoles maternelles et aux écoles élémentaires. Nous souhaitons développer également tout ce qui est éducation populaire, en nous appuyant notamment sur le monde associatif qui est très dynamique dans ce domaine-là. Nous souhaitons encourager les pratiques sportives parce que un corps sain dans un esprit sain, ça va bien ensemble. Donc nous prévoyons d'aménager un certain nombre d'équipements, voire d'en créer de nouveaux. Je pense notamment à une salle d'escalade qui est actuellement en cours d'étude, pour ne citer que cet exemple-là, mais d'autres réalisations sont prévues. Et une action très importante en termes de sécurité, c'est l'amélioration de la route de Poney qui donne accès aux installations sportives. Elle est très fréquentée par de nombreux usagers, particulièrement des jeunes à pied ou en vélo. Donc ça sera une des premières actions qu'on mettra en place, c'est de faire en sorte que cette route soit davantage sécurisée. Ensuite, je laisse la parole à Marie-Laine qui a plein d'idées dans ce domaine-là.
Non, c'est pas plein d'idées, mais juste compléter ce que tu as dit. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir sur notre liste, vraiment, on a une liste intergénérationnelle. Nous avons des jeunes, bon, ça va de 24 ans à, je dirais pas l'âge des plus anciens parce qu'ils m'en voudront. Mais donc, ça démarre à 24 ans et en plus, ce sont des jeunes qui ont envie, qui ont vraiment envie de prendre à bras le corps la jeunesse du Diwa, qui ont envie de, vraiment de travailler avec les associations ou les services déjà existants. Il est vrai qu'actuellement, la communauté de communes a la compétence jeunesse et travaille en collaboration, en partenariat étroit avec l'espace social et culturel du Diwa, qui développe une politique jeunesse très très intéressante, que ça part de la prévention au centre de loisirs, les chantiers pour jeunes. Voilà, donc ce sont des actions qui sont très intéressantes et les jeunes qui font partie de notre liste actuellement voudraient en tout cas travailler avec l'existant déjà. Donc, pour pouvoir venir en appui, en tout cas, à tous ces projets.
Avec vous, dans le titre de votre liste, vous désignez quelles sont les personnes que vous espérez dans ce « vous » ?
Ben avec vous, c'est un « vous » qui est très large, à savoir, bien entendu, et vous le savez très bien, les élus n'ont pas subitement, parce qu'ils sont élus, la science infuse, et donc ils doivent participer avec l'ensemble des associations, des voisins, des habitants qui sont proches des projets qu'on va mettre en place, également de la jeunesse, de toutes les générations. Et pour motiver un petit peu ce « vous », nous allons mettre en place un budget participatif, de telle façon qu'on le mettra sous forme de concours, et donc on mettra en place, bien entendu, une réglementation, un jury. Et je pense que chaque année, il y aura une somme aux alentours de 50 000 euros qui sera mise en place pour pouvoir répondre à des projets qui seront donnés par des associations, des riverains, des usagers, et de telle façon qu'on ait une motivation et que le « vous » ne soit pas que nous, mais que ce soit l'ensemble des Diwa. Et je voudrais dire également, parce que je vois que vous voulez conclure, mais c'est très important parce que nous en avons la demande, au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité dans le Diwa, nous avons depuis quelques années des dégradations qui coûtent beaucoup d'argent à la commune. Et je crois qu'à un moment, il va falloir marquer le stop, marquer le holà. Sans vouloir faire du sécuritaire à tout prix, je crois que nous avons fait une expérience qui nous démontre que l'utilisation de la vidéoprotection est quelque chose d'important. Nous avions au niveau du gymnase, d'abord des difficultés pour les enseignants à pouvoir enseigner dans le calme. Nous avions des dégradations importantes qui coûtaient d'abord financièrement, mais qui mobilisait beaucoup de personnel de la mairie pour pouvoir réparer et entretenir de façon efficace. Je crois que depuis que nous avons mis la vidéoprotection sur le gymnase, nous n'avons plus de problème. Tout se passe bien. Donc, en conclusion, je dois dire que nous allons mettre en place, justement, dans des points sensibles aux entrées de Dodi, sur les parkings, sur certaines places, de la vidéoprotection, qui n'est pas un contrôle permanent. Il n'y a personne derrière l'écran. Mais par contre, c'est en tant que de besoin et à la réquisition du procureur de la République, par exemple, nous pourrons regarder les images qui ont été enregistrées, qui sont conservées 7 ou 10 jours, quelque chose dans ce goût-là, mais qui ne sont absolument pas une surveillance permanente. Mais je crois que l'expérience du gymnase nous fait penser que c'est quelque chose de nécessaire. Et je crois que de plus en plus, on nous le demande, parce que nous avons des gens qui, maintenant, commencent à être un petit peu inquiets. Voilà ce que je voulais préciser.
L'émission se termine et je vous remercie donc Marie-Lyne Moucheron, Christian Rey, Agathe Laville et Monsieur Gilbert Trémollet donc d'être venus nous présenter votre liste avec vous dit demain.
Merci
et
à vous.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Radio Diwa. Je voudrais quand même préciser que nous avons demain soir, vendredi, à 19h, une réunion publique à la salle polyvalente. C'est important de le dire à l'ensemble de nos auditeurs, de façon à ce qu'ils viennent nous rencontrer et partager et débattre avec nous.
Et un site internet aussi ?
Effectivement, nous avons un site internet, facebook.com, avec vous, dit demain.
Interview.
Okay, the bird.